Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Somalie qui a reçu un deuxième lot de céréales russes gratuites, le Mali et le Burkina Faso qui liquident des terroristes et leurs chefs, ainsi qu'une usine de traitement de résidus miniers lancée par le président de la transition burkinabé. Vladimir Poutine a entamé la construction d'un nouveau bloc d'une centrale nucléaire en Égypte. Nous reviendrons ensemble sur ce moment. Sergueï Lavrov est en visite à New York à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons découvrir ses déclarations clés à cette occasion. Des mercenaires français ont été touchés par une frappe russe en Ukraine. Un eurodéputé français se penchera sur le rôle de Paris dans le conflit ukrainien. L'Ouganda, le Gabon, le Niger et la Centrafrique ont été exclus du pacte commercial américain à Goa. Un économiste malien et un politologue marocain réagiront à cette décision. Du 18 janvier 1919 au 21 janvier 1921, s'est tenue la conférence de Paris où le prédécesseur de l'ONU, la Société des Nations, a été créé. Un analyste béninois reviendra sur le manque de représentation des pays africains dans les institutions internationales. La Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté en Côte d'Ivoire. Une journaliste sportive béninoise nous livrera ses impressions et ses analyses sur place. Un navire transportant 25 000 tonnes de céréales russes est arrivé en Somalie, selon une source du port de Mogadiscio. Ce n'est pas la première fois que ce pays reçoit du blé russe à titre gratuit de la part de Moscou. En novembre dernier, un premier lot de céréales avait été livré en Somalie. Il faisait suite à des inondations sans précédent depuis un siècle qui avaient frappé le pays. 32 personnes avaient perdu la vie, tandis qu'une centaine de milliers d'autres sont devenus des déplacés. 1,5 million d'hectares de terres agricoles ont été détruites. Selon l'ONU, le nombre total de personnes touchées par cette catastrophe naturelle pourrait dépasser les 1,6 million. Pour rappel, les livraisons de céréales russes à titre gratuit font suite à une promesse de Vladimir Poutine à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique. 6 pays africains, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée, ont reçu chacun entre 25 000 à 50 000 tonnes de blé russe. La Russie a pris en charge intégralement les frais de transport. Les forces armées maliennes et burkinabées ont réalisé un gros coup dans leur lutte contre le terrorisme. L'armée du Mali a mené avec succès l'opération Kélitigui dans la région de Ménaka. L'état-major malien a déclaré dans un communiqué qu'au cours de cette opération, plusieurs terroristes, dont un chef et deux de ses lieutenants, ont été neutralisés. Deux pick-up et 13 motos camouflées ont également été détruites. Au Burkina Faso voisin, l'armée burkinabée a mené des combats dans la zone des trois frontières, a rapporté l'agence d'information du pays. Des radars ont aperçu un pick-up rempli d'armes, escorté par des motos aux environs de Markoye. Il y avait à son bord un chef terroriste qui venait d'entrer en territoire burkinabé. Les extrémistes ont été neutralisés. Pour rappel, le Mali a engrangé plusieurs succès dans sa lutte contre le terrorisme ces derniers mois. Début novembre, les forces armées maliennes ont enregistré une victoire clé avec la reprise de la ville de Kidal. Le président burkinabé de la transition, Ibrahim Traoré, a déclaré récemment que son armée montait en puissance et que celle-ci avait reçu de nouveaux armements. Les activités d'une usine de traitement de résidus miniers ont été lancées par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Située dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou, elle répond au choix stratégique de renforcer la captation de ressources ainsi que de leurs résidus. Selon le communiqué de presse de la présidence du Faso, la mise en service de cette usine permettra de faire face à l'essor de l'industrie extractive du pays en prenant en charge le traitement des résidus générés par cette activité qui n'était jusque-là pas prise en compte par la chaîne des valeurs. En outre, elle permettra de récupérer entièrement les matériaux contenus dans les résidus miniers de type charbon fin, scories, cendres et concentrés acidiques. Enfin, la présidence du Faso a assuré que le lancement de cette usine s'inscrivait dans la vision du président de la transition de conférer au Burkina Faso une vraie souveraineté à partir de solutions à l'intérieur du pays. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien Adel Fattah al-Sissi ont lancé la construction d'un réacteur de la centrale nucléaire d'El Daba, située à 350 km du Caire. Durant cette célébration, les deux chefs d'État ont donné leur autorisation pour commencer le coulage du béton du bloc numéro 4 de la centrale nucléaire d'El Daba. Sur le chantier, quatre blocs sont construits à 6 mois d'intervalle. En octobre dernier, la Russie avait fait parvenir un dispositif clé du système de sécurité pour le deuxième réacteur de cette centrale. Pour rappel, la construction de la centrale nucléaire d'El Daba fait suite à un accord entre le Caire et Moscou, conclu en novembre 2015. C'est le géant de l'atome russe, Rosatom, qui est chargé de la réalisation de ce projet. Sa construction devrait être achevée d'ici à 2028-2029. Je vous propose de réécouter tout de suite ce moment.
C'est une nouvelle étape dans la construction de cette centrale nucléaire qui est essentielle pour les relations entre la Russie et l'Égypte et dont la mise en œuvre signifie une contribution importante dans le développement économique de l'Égypte et le développement de sa base énergétique. Nous contribuerons autant que possible à renforcer cette production, à la formation de spécialistes, à la création d'emplois. Et c'est un travail que nous allons faire ensemble dans la mesure où ce système justement énergétique permet de travailler ensemble dans les meilleures traditions de notre coopération historique. Je rappelle que dans la deuxième moitié du siècle dernier, les spécialistes soviétiques avaient participé très activement au développement économique et à l'amélioration des capacités de défense de la République arabe d'Égypte. Ils ont participé à la construction de sites industriels et énergétiques comme le barrage d'Assouan. Et dans ces efforts communs, ont été posées des bases importantes qui continuent de fonctionner et qui ont toujours une utilité pour le peuple égyptien. Cette coopération multilatérale entre nos deux pays se poursuit de façon régulière et se développe. L'Égypte est effectivement un ami proche et un partenaire stratégique. Tous ces projets que nous menons ensemble, notamment en matière d'agriculture, d'énergie, de production agroalimentaire, et aussi notre projet d'établissement de zones de libre-échange russe près du canal de Suez, tout cela fait que notre coopération se développe de façon toujours aussi positive et aussi dans le cadre des BRICS. Dès le début, la Russie avait soutenu la candidature de l'Égypte à devenir membre à part entière de cette union des BRICS. Et cette année, dans le cadre de notre présidence, nous ferons tout ce qui est possible pour que l'Égypte, concrètement, nous rejoigne. Nous avons plus de 200 réunions et manifestations organisées entre nos deux pays et nos spécialistes participeront de la façon la plus active. Et bien entendu, nous vous attendons, cher monsieur al-Sissi, à la grande réunion des BRICS à Kazan en octobre prochain.
Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé à New York à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le conflit en Ukraine a notamment été au menu des discussions. Monsieur Lavrov a rappelé à cette occasion que la recherche d'une solution pacifique était compliquée par le soutien occidental à Kiev. Écoutons monsieur Lavrov tout de suite.
Aujourd'hui, nous discutons une fois encore de la situation en Ukraine, alors que l'Occident continue de lui livrer des armes. Et alors que les mercenaires continuent d'affluer dans le pays, y compris des mercenaires français. Aujourd'hui, la majorité des experts impartiaux comprennent bien que le principal facteur qui fait obstacle au règlement pacifique de la crise ukrainienne est le soutien que l'Occident continue d'apporter au régime de Kiev. Et ce, en dépit de sa claire agonie et de son incapacité à atteindre les objectifs qui lui ont été dictés, à savoir infliger une défaite stratégique à la Russie ou comme l'ont dit d'aucuns récemment, affaiblir mon pays. La réalité est que, en dépit de l'échec complet des forces ukrainiennes sur le champ de bataille, les parrains occidentaux du régime de Kiev continuent de l'encourager avec une insistance maniaque à poursuivre les opérations militaires insensées. Les marchands de mort ne s'ébranlent pas du fait que leurs armes, y compris des armes à sous-munitions ou encore des munitions à uranium appauvri, sont utilisées de manière méthodique, impitoyable et préméditée pour frapper des installations civiles, comme ce fut le cas lors des frappes contre des quartiers résidentiels de Belgorod le 30 décembre, ou encore hier contre des marchés et magasins à Donetsk. Le fait de fournir depuis des années de manière irresponsable des armes au régime corrompu de Zelensky a une autre dimension dangereuse. Alors qu'il tente de s'enrichir au maximum dans le cadre de ce conflit, des dignitaires à Kiev revendent tout simplement des armes qui leur ont été fournies par l'Occident sur le marché noir. On peut trouver sur le dark web de nombreuses annonces. Il est difficile d'imaginer que les hommes d'affaires occidentaux ne sont pas au courant. L'un des derniers exemples concerne des mitraillettes M16 américaines transmises à Kiev, des mitraillettes que l'on peut acheter en ligne pour des crypto-devises. Bien évidemment, cette situation profite à des groupes terroristes. Des armes se retrouvent ainsi en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ce qui ne fait que déstabiliser des régions au demeurant tumultueuses.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je salue celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'armée russe a éliminé récemment des mercenaires français qui se trouvaient sur un point de rassemblement à Kharkov, en Ukraine. Le Quai d'Orsay a nié la présence de ressortissants de l'Hexagone au sein de l'armée ukrainienne. C'est dans ce contexte que le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, afin que ce dernier s'explique sur la présence de ses compatriotes dans les rangs de l'armée ukrainienne. Depuis, des volontaires français de l'association SOS Donbass ont révélé une liste de mercenaires hexagonaux présents à Kharkov. Au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique, Hervé Juvin, eurodéputé français, a réagi à cet événement.
À votre avis, quelles sont les motivations des Français pour aller dans cette zone de combat de très haute intensité, d'autant plus que le mercenariat est un crime en France?
D'abord, la différence entre des mercenaires et des volontaires étrangers. Il est de notoriété publique que des volontaires français se battent du côté ukrainien sur le front, de la même manière qu'il est tout à fait vraisemblable que des volontaires français se battent du côté russe. Je parle là de volontaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des soldats professionnels et des gens qui n'appartiennent pas à des sociétés militaires privées ou à des milices. Ce qui a été dit, c'est que des mercenaires français ou étrangers avaient été tués. Ça relève donc de milices, de sociétés militaires privées, et c'est un tout autre problème un peu partout dans le monde. Ce qu'il faut quand même observer, c'est que la véritable question est moins celle de volontaires ou de mercenaires qu'elle est celle de soldats, c'est-à-dire de militaires en fonction, qui pourraient ou qui seraient supposés opérer avec l'armée ukrainienne. On a eu par exemple des informations non confirmées disant que des soldats de la Légion étrangère française, que des soldats des forces spéciales françaises pouvaient opérer en Ukraine. Alors ça pose un autre débat qui est un peu présent au sein de l'opinion française. Le débat est celui de la décision en matière de politique étrangère, de la décision en matière d'engagement des forces sur un théâtre étranger et du débat démocratique ou du débat public. Et là-dessus, je ferai trois observations. D'abord, depuis l'origine du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, il y a un soutien très majoritaire en France au fait que la France soit derrière l'Ukraine, soit par des livraisons d'armement, soit par des aides diverses. Le deuxième point qui me paraît également important, c'est de souligner la grande différence de la Constitution de 1958 en matière de politique étrangère et d'engagement des armées, qui fait du chef de l'État le chef des armées, et qui, à la différence notamment de l'Allemagne, où le rôle du Bundestag en matière de politique étrangère est important, À la différence aussi de la Grande-Bretagne, où les élus ont à approuver les décisions de politique étrangère et d'engagement militaire éventuel, ça n'est pas le cas en France. Et donc, s'il y a et livraison d'armes et aide à l'Ukraine et éventuellement engagement de militaires français, on reste dans le cadre de la Constitution. J'observe d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, sous la direction de M. Bourlange, à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats et il y a eu des auditions concernant le soutien français à l'Ukraine. Alors le troisième point, qui lui est une question politique d'une autre ampleur, c'est l'inquiétude qui commence à monter en Europe sur le fait que le théâtre d'opération s'élargisse. Vous avez vu l'inquiétude en Allemagne au sujet d'opérations russes hors du territoire ukrainien pouvant gagner l'Europe. Et là, on voit bien qu'on est dans une logique totalement différente de celle de l'aide à l'Ukraine, qui est une logique largement insufflée par nos alliés de l'OTAN et par nos alliés britanniques et américains, qui consiste à considérer que le danger d'une invasion russe de l'Europe justifie un accroissement considérable de l'effort militaire et de l'engagement militaire. Ça pose pour moi une question d'une toute autre ampleur. Est-ce que la France est directement ou indirectement un belligérant contre la Russie? Et est-ce que la France est prête à s'engager derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne dans cette idée que je crois fausse, qui est que la Russie est notre principal ennemi stratégique? Si j'ai choisi de vous répondre aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est important de parler et de maintenir le dialogue. C'était d'ailleurs la ligne suivie par le président Emmanuel Macron jusqu'à ces derniers temps. Je pense que c'est la ligne de la paix et je pense que c'est la ligne qui doit nous conduire d'abord à appeler un cessez-le-feu sur le front ukrainien, ensuite à considérer que les populations russophones ont droit à des formes d'autonomie et de protection de leur identité, qui sont les conditions d'un accord de paix et de frontières durables. Mais ensuite, je considère que la France n'a pas à se laisser engager malgré elle, voire contre elle, dans un conflit qui n'est pas le sien.
Merci de cette réponse. Et juste pour poursuivre ce sujet de la paix, justement, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles livraisons d'armement à Kiev et a tenu à souligner qu'il ne faut pas laisser la Russie gagner. Est-ce que cela coïncide bien avec l'idée de la paix laquelle il faut défendre? Jusqu'où cette escalade dans la confrontation avec une puissance nucléaire aussi comme la Russie peut-elle mener la France?
C'est le danger que j'évoquais. Si la France devait se trouver dans la situation d'un co-belligérant, là, ça appelle évidemment un débat public, ça appelle une réflexion de grande ampleur sur ce que le président Emmanuel Macron appelait autonomie stratégique et dont on ne voit plus beaucoup de traces. Alors, deux observations par rapport à votre question. C'est que jusqu'ici, et à ma connaissance, la France n'a pas envoyé de missiles à longue portée ou la France n'a pas envoyé de moyens qui seraient susceptibles de toucher le territoire russe hors des frontières ukrainiennes. C'est un point qui me paraît important. Le deuxième élément, c'est effectivement, et vous l'avez observé, le changement de ton et le changement de discours du président de la République. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qui avait été affirmé avec constance depuis 2 ans, il apparaît aujourd'hui évident à tous les observateurs de bonne foi, d'abord que l'Ukraine n'est pas en train de gagner la guerre, et sans doute également que c'est une guerre que la Russie ne peut pas perdre. Le fait que la Russie ne puisse pas perdre cette guerre, pour moi, ne signifie absolument pas que la Russie se prépare à engager des actions offensives contre les pays de l'Ouest européen ou contre les anciens pays de l'Est européen. On voit bien le changement de ton du président de la République, Emmanuel Macron, qui semble aujourd'hui considérer que, de fait, la Russie est en train de gagner la guerre et qui probablement redoute un effondrement militaire annoncé de l'Ukraine. Je pense que cette réaction, qui n'était pas nécessairement prévisible, est tout simplement une réaction de désarroi devant l'incapacité des industries d'armement occidentales à répondre aux besoins d'une guerre durable de haute intensité. Ça fait part aussi du dépit de ceux qui avaient cru que les sanctions allaient mettre la Russie à genoux, alors que les chiffres sont sans ambiguïté. La Russie est devenue la première économie européenne et la Russie aura un taux de croissance très significatif en 2024, alors qu'une grande partie de l'Union européenne arrive en récession. Et donc je pense que dans les propos du président Macron, il faut voir la reconnaissance tacite d'erreurs magistrales, mettre la Russie à genoux, Il faut voir la reconnaissance d'erreurs stratégiques également importantes. Nous ne sommes pas en état aujourd'hui de soutenir une guerre de haute intensité. Et il faut donc voir un mouvement d'inquiétude à la suite de ces erreurs. Que se passerait-il si une situation que nous n'avions pas eu le droit d'imaginer, qui est celle d'une victoire de la Russie en Ukraine, que se passerait-il pour nous en Europe ? Je pense que ce sont ces réactions qui expliquent les propos d'Emmanuel Macron et qui expliquent les décisions de la France de contribuer à des livraisons d'armes dont je ne pense pas qu'elles soient en état de changer le cours de la guerre.
Mais juste encore une question aussi sur la participation militaire et financière de Paris. Est-ce que la population française soutient pleinement cette aide qui est octroyée par Paris, probablement, alors qu'il ferme les yeux sur ses propres problèmes internes ?
D'abord, vous me permettrez de rappeler des évidences. La population française, dans son immense majorité, ne considère pas la Russie comme un ennemi existentiel. Ça s'explique très loin dans l'histoire. À plusieurs reprises, l'effort militaire russe a protégé la France ou sauvé la France. Aucun Français n'oublie que c'est l'incroyable effort militaire soviétique qui a détruit les forces blindées et les forces armées nazies allemandes. Et ça, ça reste très important et ça reste très cher au cœur des Français. Donc les Français n'identifient pas la Russie comme leur premier ennemi ou comme une menace existentielle pour la France. La deuxième chose, c'est que c'est loin. Je comprends parfaitement au Parlement européen l'hypersensibilité de mes collègues polonais, de mes collègues roumains, de mes collègues hongrois, etc., à ce qui se passe pratiquement à leurs frontières. La France, c'est loin et les Français se sentent beaucoup moins concernés que d'autres pays européens par le conflit en Ukraine. Ça me paraît aussi une donnée importante à prendre en compte. Le territoire, ça compte. Et l'éloignement géographique, ça compte. Le dernier point, c'est que sur ce sujet, comme d'ailleurs sur d'autres, la population française est soumise à une propagande pratiquement sans contrepartie. Vous savez mieux que moi que l'une des premières décisions des autorités françaises après l'engagement de l'opération militaire spéciale a été de fermer les chaînes de télévision russes, Sputnik, RT, etc. Les Français n'y ont plus accès. Alors que les Français ont accès sans aucune limite à la propagande américaine et à la propagande britannique. Ça me paraît quelque chose d'important dans la formation de la conscience publique. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, très majoritairement façonné par les médias, la population française, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays européens, ne s'est jusqu'ici jamais alertée de l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Cela peut changer, et vous l'avez souligné, cela peut changer en raison à la fois des difficultés de politique intérieure et, pour être clair, de l'appauvrissement des Français et des difficultés économiques que rencontre la France. Ça serait probablement de nature à changer s'il apparaissait que la France a un engagement plus lourd qui fait d'elle, de fait, un co-belligérant. Là, je ne doute pas qu'il y aurait débat public et je ne doute pas que l'opinion française serait conduite à s'interroger est-ce que réellement la France veut considérer la Russie comme un ennemi ?
C'était Hervé Juvin, eurodéputé français pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la frappe russe sur des mercenaires français à Kharkov. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Quatre pays africains ont été exclus du pacte commercial américain African Growth and Opportunity Act. Il s'agit du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine. Ce programme permet aux pays africains membres d'exporter sans droit de douane plus de 6000 produits aux États-Unis. Pour l'Ouganda, c'est suite à la promulgation d'une loi contre les LGBT que Washington a décidé d'exclure ce pays. Quant au Niger, à la République centrafricaine et au Gabon, ils sont également blâmés pour les violations de droits de l'homme et l'absence de progrès sur la voie de la démocratie. Le président ougandais, Yoweri Museveni, a minimisé l'exclusion de son pays de ce programme. Il a déclaré que Washington surestimait leur importance pour l'Afrique et que les pressions extérieures envers les Africains devaient être rejetées. Au micro de Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales, ainsi que Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, ont commenté cette décision américaine. Monsieur Makalou, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce qu'est la GOA ?
En effet, il faudra rappeler que l'AGOA est une loi de commerce international préférentielle entre les États-Unis et 35 pays africains actuellement sur les 54. Donc l'AGOA a été initiée en 2000 et évidemment a été renouvelée en 2015 et expirera le 30 septembre 2025. Et évidemment, l'AGOA est exempte ou exonère les pays éligibles des droits de douane pour leurs exportations vers les États-Unis. Et cela concerne environ 6 000 produits. Évidemment, il y a des conditionnalités comme le respect de la démocratie, des droits humains et aussi le permettre la libre importation des produits américains vis-à-vis vers les continents africains aussi.
Monsieur Najib, les États-Unis ont décidé d'évincer le Gabon, le Niger, l'Ouganda et la RCA du programme commercial AGOA en pointant des violations flagrantes des droits de l'homme. Quels commentaires pourriez-vous nous faire ?
Il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est que les droits de l'homme. Est-ce qu'on parle des droits de l'homme occidentaux, dans des pays comme les États-Unis justement, qui tuent des gens dans la rue, qui violent tous les jours des droits de l'homme, avec des pays comme les États-Unis qui sont coupables d'avoir tué 2 millions de personnes en Irak, qui avec trois présidents successifs ont tué pratiquement plus de 11 millions de musulmans, ont envahi au moins 9 États durant les 30 dernières années. Si c'est de ce genre de droits de l'homme que nous parlons, il est donc inutile de répondre à cette question, vu que les États-Unis d'Amérique qui pointent et qui évincent des pays africains pour violation des droits de l'homme sont les premiers à violer les droits de l'homme, mais de manière extrêmement violente, et partout dans le monde, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, en Amérique latine, l'histoire est là pour l'attester. Donc je trouve que cette éviction est arbitraire et elle est toujours mise sous le sceau de cette pseudo-démocratie à l'occidentale qui aujourd'hui est en fin de cycle et qui a montré toutes ses limites avec toutes les exactions que l'on voit un peu partout. Et je pense que les Africains aujourd'hui ont compris cette leçon-là et refusent absolument toute tutelle et mise en otage de leur propre manière de gouverner, de leur propre manière de définir quelle souveraineté ils veulent pour leur pays et pour leur population.
Monsieur Makalou, face à cela, le président ougandais a appelé à arrêter les manipulations des sociétés, lesquelles sont différentes. Peut-on dire que cette décision américaine relève de leur politique de deux poids, deux mesures concernant l'Afrique ?
Rappelons que, oui, effectivement, le cas de l'Ouganda est un cas particulier parce qu'il s'agit d'une loi qui a été votée par le Parlement ougandais que les gouvernements des États-Unis considèrent comme une violation flagrante des droits humains. Mais rappelons aussi que concernant le Rwanda, il avait quand même été exclu aussi de l'AGOA pour ne pas avoir permis l'importation des vêtements usagés sur le sol rwandais. Donc, évidemment, ce sont des mesures qui sont prises vis-à-vis de la loi américaine, mais qui nécessairement ne reflètent pas, du point de vue universel, les principes et les valeurs humaines. Et aussi du point de vue culturel et historique, évidemment, d'un pays à l'autre, les valeurs et les principes peuvent changer. Et donc, certains peuvent considérer ça comme deux poids, deux mesures. Mais ce sont des mesures iniques dans certains cas, notamment pour le Rwanda et l'Ouganda, dont les peuples ont le droit de disposer de leur souveraineté pour faire appliquer les lois ou en tout cas tout ce qui peut avantager leur population.
Monsieur Najib, jugez-vous que cette décision de Washington relève de sa politique de deux poids deux mesures vis-à-vis de l'Afrique ?
Quand il s'agit des Européens, des Occidentaux, les droits de l'homme fonctionnent dans un sens. Quand il s'agit de l'Afrique, du monde arabe et d'autres pays, les droits de l'homme fonctionnent différemment. On ne peut pas réajuster à sa guise des paradigmes sur les droits de l'homme pour servir ses propres intérêts. C'est dans ce sens-là que le président Ougandais a appelé à arrêter ce type de manipulation parce que cette instrumentalisation de l'opinion publique mondiale n'a plus droit d'être dans un monde tel que on le voit aujourd'hui, avec le conflit en Europe, avec l'invasion de Gaza par Israël. Et est-ce que Israël aujourd'hui, soutenu à 100% par les États-Unis, soutenu à 100% par l'Union européenne et par la majorité de l'Occident, n'est pas en train de violer avec acharnement et en assumant ces actes les droits de l'homme en perpétrant un génocide à Gaza? Donc posons-nous cette question-là. On ne peut pas recevoir de leçons de la part d'un Occident qui légitime le crime et le génocide quand il s'agit des musulmans et des arabes et qui évince des pays africains qui ont besoin de prendre en main leur essor économique sur la base de paradigmes sur les droits de l'homme, justement dans cette dichotomie de poids, de mesure.
Monsieur Najib, selon le président Museveni, certains pays ont utilisé le progrès technologique pour freiner d'autres États ayant des valeurs différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Cela rejoint les propos du président Museveni qui dit que certains pays utilisent ce progrès, cet essor économique, technologique, moderne, pour freiner l'essor de d'autres États. Mais c'est ce qui arrive dans le monde depuis plus de deux siècles, et surtout au XXe siècle, et surtout les 30 dernières années, avec l'Occident qui fait tout, qui pèse de tout son poids pour que les pays émergents, notamment les pays africains, les pays arabes, ne peuvent pas devenir de véritables puissances économiques, parce qu'à ce moment-là, leur tutelle, leur mainmise sur les richesses de ces pays vont tomber. Et à ce moment-là, ces pays-là, regardez, imaginez si l'Afrique pouvait faire fructifier son potentiel humain, ses matières premières, et si l'Afrique pouvait se réunir dans une véritable union, à la fois politique, économique, financière, elle deviendrait la première puissance du monde. C'est ce que les Américains et les pays occidentaux refusent absolument. Et ils utilisent tous les moyens pour casser toute manœuvre, toute tentative de créer ce pôle économique, stratégique, géostratégique, géopolitique, financier, économique, parce qu'ils savent et ils mesurent tout le potentiel d'un continent comme l'Afrique qui est destiné à être l'avenir de l'humanité.
Monsieur Makalou, fin 2023, on a vu l'émergence de l'Alliance des États du Sahel avec la participation du Mali, du Niger et du Burkina. Cette union a vocation à se transformer en une alliance économique. Comment voyez-vous son potentiel économique?
Oui, depuis le 16 septembre 2023, la charte de l'Alliance des États du Sahel a été signée à Bamako, au Mali, concernant trois pays qui se sont érigés en confédération, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, ces trois États ont aussi décidé d'aller vers une intégration économique et monétaire. Donc, cela est une bonne nouvelle pour ces trois pays sahéliens qui vont représenter quand même une surface assez importante en Afrique, près de 2 800 000 km², ce qui va faire de cette entité regroupant des pays souverains la plus grande entité en Afrique. Et aussi, ça va concerner environ 70 millions de personnes pour ces trois États, la population combinée des trois États. Évidemment, le potentiel économique est très important pour ces trois États, qui sont des États agro-silvo-pastoraux, mais aussi qui sont des États miniers, qui disposent de beaucoup de ressources naturelles. Et vous savez que le Niger commence ce mois-ci à exporter du pétrole en janvier 2024. Et que le Niger est un grand producteur d'uranium, parmi les plus grands au monde, et que aussi le Niger est un grand producteur aussi de céréales et de bétail, mais aussi le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique, et le premier producteur de coton aussi en Afrique, et le troisième producteur de poissons d'eau douce en Afrique. Et le Mali va commencer à produire du lithium cette année. Et pour ce qui concerne le Burkina Faso, le Burkina est le quatrième producteur d'or en Afrique, un très grand producteur de coton aussi et de céréales, et évidemment dispose de beaucoup de potentialités dans le domaine minier. Donc, il s'agit de voir maintenant comment mettre tout cela en harmonie dans un organisme d'intégration économique, de créer de la connectivité entre cette entité qui est un peu vaste, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une transformation structurelle, plus de création de valeur ajoutée des produits, parce que ces pays sont vulnérables aux chocs exogènes, parce que ces trois pays dépendent des matières premières qu'ils vendent sur le marché international. Donc, il s'agit d'améliorer les facteurs de production pour transformer davantage les produits, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois pour le bien-être des populations de ces trois États.
Et vous, Monsieur Najib, que pensez-vous du potentiel économique de l'Alliance des États du Sahel ?
Cette union, qui est le prémisse d'un pôle régional, vise à transformer en une alliance économique de plus grande envergure, avec ce qu'on a vu, cette décision par le Maroc d'ouvrir sa côte atlantique à tous les pays du Sahel pour leur permettre un accès à l'Atlantique pour fructifier justement l'économie, pour fructifier les échanges et pour créer un véritable pôle régional. C'est le souhait des Africains depuis de nombreuses années, surtout ces 5 dernières années où il y a véritablement un éveil politique, un éveil des consciences pour refuser que l'Occident continuer son ingérence dans leurs affaires et politiques, et humaines, et économiques, et culturelles. Si on arrive aujourd'hui avec des pôles régionaux comme le Sahel, le Maghreb qui a échoué à cause des raisons que l'on connaît, si les pays africains, ne serait-ce que les pays africains, par exemple, francophones, anglophones, les pays africains de la région sud ou les pays africains de la région est, essayent de créer des polarisations économiques et puis entrer en contact les unes avec les autres, avec toutes ces régions que je viens de citer, l'Afrique pourrait créer sa propre zone d'échange économique. L'Afrique pourrait même aller plus loin et créer sa propre monnaie d'échange, qui est un vœu vieux de cette Afrique qui devrait aujourd'hui se délester de cette mainmise de l'Occident, notamment la France, sur le franc CFA, ce qui pénalise grandement l'économie et la rentabilité de ces pays-là. Je pense que l'avenir de l'Afrique passe par ces polarisations régionales, par une collaboration, une coopération soutenue d'égal à égal avec les pays africains d'abord, toutes régions confondues, et aussi avec des partenaires qui respectent les pays africains, qui travaille avec les pays africains dans une logique win-win, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde. Et voilà, et on peut se passer de cette tutelle occidentale.
C'était Abdellah Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales, ainsi que Modibo Mahoumakalou, économiste et gestionnaire financier malien pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté l'exclusion de 4 pays africains du programme commercial américain AGOA par Washington. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Du 18 janvier 1919 au 21 janvier 1921, s'est tenue la conférence de paix à Paris. Organisée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, elle avait pour but de négocier les traités de paix. La conférence a établi un règlement pour le prédécesseur de l'ONU, la Société des Nations, et a approuvé sa charte, dont le texte a été incorporé dans les traités de paix. Sous couvert de cette organisation, censée promouvoir la coopération entre les peuples et leur garantir la paix et la sécurité, les pays vainqueurs se sont partagés les colonies. Bien entendu, les colonies elles-mêmes étaient exclues de la Société des Nations. Pire, les conséquences de ces décisions qui ont été actées lors de cette conférence ont suscité des rancœurs chez certaines puissances et créé un déséquilibre dans les relations internationales, ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Au micro de Spoutnik Afrique, Modeste Dossou, chroniqueur et analyste béninois, est revenu à l'occasion de cette date sur la représentation insuffisante des pays africains dans les institutions internationales. La conférence de paix de Paris fin janvier, il y a plus d'un siècle, marque les premières tentatives de construire un ordre mondial centré sur l'Occident. Peut-on dire que ce système a signé son échec ?
Oui, en réalité, la conférence de paix de Paris n'est qu'une conférence de paix de nom. Ce n'était pas vraiment une conférence pour faire la paix, mais c'était une conférence pour régler les comptes, parce qu'il ne s'agit qu'une rencontre des vainqueurs pour se partager le monde en réalité. C'est là qu'a commencé en fait l'hégémonie mondiale, l'hégémonie de l'Occident sur le monde. Cependant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en 2024, c'est la fin de cette hégémonie parce qu'il ne s'agissait qu'en réalité d'une bombe à retardement qui, à partir des années 2019, ou disons, oui, 2019, concrètement, cette bombe à retardement a commencé à exploser de part et d'autre. Et puis voilà, on en est là où on est aujourd'hui. Cette hégémonie est en train de s'effriter. C'était comme on le dit, un château de cartes qui est en train de tomber petit à petit. Et je pense que on peut parler aujourd'hui, comme le thème qui vient, de désoccidentalisation du monde, qui l'Occident est en perte d'influence, ce qui se traduit en termes économiques, géopolitiques et bien sûr en termes démographiques. Donc du coup, je pense que la conférence de paix de Paris, un siècle après, doit être oublié rapidement parce que ce n'était qu'une bombe à retardement qui a explosé maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette hégémonie-là qu'ils ont tenté que les vainqueurs ont tenté de construire dans le temps.
Aujourd'hui, avec les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, le monde est confronté aux nouveaux défis auxquels ce système sous domination occidentale s'avère incapable de répondre. De quel changement a-t-on besoin ?
Avec les différents conflits qu'on voit dans le monde aujourd'hui, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique, et surtout les différentes montées de tensions dans la péninsule coréenne, entre la Chine et Taïwan et autres, on voit quand même le fait que l'Occident fait en sorte de susciter ces guerres. Parce que quand on voit la rhétorique occidentale par rapport à ces différents conflits et tout, ce n'est pas dans l'objectif de calmer, de faire la paix. Du coup, on se rend compte que l'hégémonie occidentale, l'ordre mondial tel qu'il était, il n'a été qu'un ordre des souverains, des plus puissants en fait, et qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que quand nous prenons la guerre au Moyen-Orient, certains pays ont décidé de réagir. Quand on prend au Yémen, les Houthis qui ont décidé de réagir pour aider Gaza, ou plutôt en réponse à l'attaque de Gaza par Israël, au bombardement de Gaza par Israël. Quand on voit l'Iran qui ne veut plus se laisser faire, quand on voit la Corée du Nord qui affiche les muscles, on se rend compte aujourd'hui que cet ordre mondial n'était que factice et que les pays ont commencé à comprendre qu'il fallait se prendre en charge. Quand on voit le Mali aujourd'hui, le Sahel, les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, qui décident aussi d'affirmer leur indépendance, de multiplier leur partenariat, c'est là qu'on se rend compte que le siècle de la puissante hégémonie occidentale, le siècle de la toute-puissance de l'Occident est fini. Et que c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se créer, où il y a plusieurs puissances, il y a plusieurs pôles qui se forment. Et cela va, malheureusement pour l'Occident, cela va encore s'empirer. Et c'est de bonne guerre pour certains pays qui n'arrivaient pas à s'affirmer, qui n'arrivaient pas à se développer sous cet ordre mondial qui n'était pas du tout un ordre de paix, mais plutôt un ordre de guerre quand quelqu'un n'allait pas dans le sens de ce que veut l'Occident.
Face à ce système centré sur l'Occident, on a vu émerger le groupe des BRICS qui défend un monde multipolaire. Comment l'Afrique voit-elle sa place dans ce monde multipolaire et ses relations avec les BRICS ?
Il faut dire que l'avènement des BRICS est encore un plus pour la mise en place de ce monde multipolaire qui se met en place tout seul. Ce n'est pas tel ou tel pays qui interagit, qui fait en sorte que la multipolarité du monde est en train de s'ériger en un fait naturel. C'est le monde même qui est en train de se régler. Le monde même, la planète même est en train de se réguler. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la Russie qui est allée, par exemple, faire le coup d'État au Mali. Pourtant, quand il y a eu un coup d'État au Mali, les Maliens ont décidé de s'ouvrir à d'autres pays, autres que les pays occidentaux du Sud. Du coup, il faut se dire que le monde même est en train de se réguler. Plusieurs pays ont commencé à comprendre qu'il faut prendre sa destinée en main au lieu de confier cette destinée à un groupe de pays qui se disent dirigeants du monde, gendarmes du monde, etc. Et je pense que c'est ça qui propulse en avant ce monde multipolaire qui se forme. Aussi, l'Afrique, la place de l'Afrique dans ce nouveau monde, surtout avec l'avènement des BRICS, devrait être très importante. Maintenant, je ne suis pas pour qu'on parle de l'Afrique, mais qu'on parle de pays africains. Parce que certains pays africains ont décidé de confier leur destinée à l'Occident, à l'ancien ordre mondial. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont décidé, on ne peut pas leur en vouloir. Mais d'autres pays qui ont décidé de prendre leur destinée en main et de se développer par eux-mêmes, de ne plus dépendre d'autres personnes, ont décidé d'ouvrir d'autres perspectives, d'ouvrir des partenariats avec d'autres pays et autres. Ces pays, sûrement, vont tout faire pour être plus proches des BRICS que, par exemple, du G20 ou du G7. Voilà, donc je pense que l'Afrique, si on veut le prendre en gros, n'a pas vraiment une position fixe dans ce monde du bipolaire, parce que quand on prend le continent africain, elle semble toujours statique par rapport à l'avènement, au changement dans le monde. Mais quand on prend les pays africains, les pays qui se retrouvent sur le continent africain, c'est quand même 53 pays, plusieurs d'entre eux ont quand même décidé de couper les ponts avec l'ordre mondial unipolaire pour se projeter dans un ordre mondial multipolaire qui leur ouvre beaucoup d'autres perspectives de développement, de coopération et d'épanouissement. Donc je pense que petit à petit, tout le continent pourrait, avec le temps, se retrouver plus épanoui dans ce monde que dans l'ancien monde d'il y a un siècle.
Cela fait des décennies que l'Afrique réclame une meilleure représentation dans les institutions internationales, y compris à l'ONU. L'Afrique compte 54 pays, mais l'Union africaine n'occupe qu'un siège au G20. Qu'est-ce qui pourrait être fait afin de porter la voix de tous les pays africains sur la scène internationale?
En ce qui concerne la représentativité des pays africains dans les institutions internationales, je pense que le seul truc qu'il y a à faire, c'est la balle est dans le camp des Africains, en fait. Parce qu'en Afrique, on se considère comme des sous-peuples, parfois, parce que tellement... le monde tel qu'il était nous a fait croire qu'on était des sous-peuples, que l'Afrique était un sous-continent, tellement on leur a fait croire que les Africains eux-mêmes ont fini par croire qu'ils étaient des sous-peuples, qu'ils n'avaient pas droit à ci, droit à ça. Avec le temps, les Africains ont commencé par donner de la voix, de réclamer leurs droits aussi. Mais si il faut que l'Afrique soit respectée et qu'on lui donne une place de choix, la place qu'elle mérite dans le monde aujourd'hui. Et c'est les Africains eux-mêmes qui vont faire cette révolution. Ce sont les Africains eux-mêmes qui vont décider de s'unir. Quand je prends par exemple l'Union africaine, l'Union africaine n'est que de nom parce que l'Afrique n'est pas unie. Et tant que vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas avoir une puissance de frappe, vous ne pouvez pas avoir une voix qui porte. Je ne peux pas dire, je prends le cas du Bénin. Le Bénin ne peut pas dire, écoutez, je veux que la guerre cesse à Gaza, sinon je vais faire ci, je vais faire ça. Le Bénin ne pourra rien dire parce que le Bénin, c'est rien du tout. Mais quand je prends l'Afrique entière, 53 pays, je vous dis, dans le monde, 53 pays qui portent la voix et qui disent, d'une seule voix, si la guerre ne cesse pas, je crois que l'Afrique à elle seule peut réussir à arrêter beaucoup de guerres. Hein. Oui, parce qu'elle peut décider de mettre la pression sur certains pays qui viennent puiser les ressources minières en Afrique. Je crois que l'Afrique peut décider aujourd'hui de couper les ponts avec ces pays qui décident de venir chercher les ressources ici, ressources minières, ressources humaines, etc. en Afrique. Si elle décide aujourd'hui de dire je sanctionne, je coupe les ponts, comme par exemple l'Occident veut qu'on coupe les ponts avec la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'Afrique peut décider de couper les ponts avec les États-Unis, la France et d'autres pays du fait de la guerre en Israël. La guerre se serait arrêtée. La minute qui suit, la guerre s'arrête. C'est comme ça. Donc, je pense que la place que l'Afrique mérite dans les institutions mondiales dépend de comment l'Afrique demande cette place-là. Parce que l'Afrique, c'est 53 pays et l'Afrique est toujours considérée dans les institutions internationales comme bon, un petit continent de rien du tout. Parfois même, il y en a même qui confondent dans leurs propos. Enfin, ils ne confondent pas, mais ils assimilent dans leurs propos l'Afrique à un pays de rien du tout, qui n'est pas puissant et tout et tout. Mais quand même, l'Afrique, c'est plusieurs pays. C'est pour ça que je suis très gêné quand on parle, quand on veut parler d'un pays africain, on dit l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Mais non, l'Afrique, c'est plusieurs pays avec différentes façons de gouverner, différentes idéologies, etc. Donc, je pense que les Africains eux-mêmes doivent réclamer, mais en unisson, doivent faire valoir leur puissance. Parce que l'Afrique, elle n'a pas la puissance militaire nécessaire, mais elle a la puissance économique avec ses ressources, sa matière première. Elle a la puissance nécessaire pour parler et se faire écouter. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera que l'Afrique va se faire écouter, mais l'Afrique doit se faire écouter avec sa puissance qu'elle a aujourd'hui, la puissance économique aujourd'hui. Tout le monde sait que aujourd'hui, en 2024, le continent qui attire tous les regards, c'est l'Afrique. Il faut que l'Afrique décide de prendre sa destinée en main et de ne plus faire de la sous-traitance de sa destinée avec d'autres pays. L'Afrique doit prendre sa destinée en main et décider de travailler et faire en sorte que sa voix porte.
C'était Modeste Dossou, chroniqueur et analyste béninois pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de l'anniversaire du début de la conférence de paix de Paris de 1919, il est revenu sur la représentation insuffisante des pays africains dans les institutions internationales. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de football touche bientôt à sa fin. Cette compétition attendue par les amateurs de football nous réserve déjà quelques surprises avec le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. Elles ont déjà validé leur ticket pour le prochain tour. La Guinée équatoriale s'est offerte une victoire de prestige contre les éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score de 4-0. Ces derniers à domicile figuraient pourtant parmi les favoris de la compétition. Ils doivent désormais attendre la fin des autres matchs pour savoir s'ils sont repêchés au tour suivant en tant que meilleur troisième. D'autres nations déclarées favorites ont également déçu. Il s'agit de l'Algérie qui n'a pas pu faire mieux que deux matchs nuls, mais également du Cameroun qui totalise un point en deux matchs avec un match nul contre la Guinée et une défaite face au Sénégal, autre favori de la compétition. Enfin, les sélections sahéliennes sont bien entrées dans la compétition. Les Aigles du Mali ont battu l'Afrique du Sud et partagé les points avec la Tunisie. Les étalons du Burkina Faso se sont imposés sur le plus petit score contre la Mauritanie et ont ensuite tenu en échec 2-2 l'Algérie dans un match où la victoire leur a échappé dans les derniers instants. En direct de la CAN, au micro de Spoutnik Afrique, Hilary-Christelle Tolok-Padonou, journaliste sportive béninoise, nous a partagé ses premières impressions de la compétition. Comment évaluez-vous la préparation de la Côte d'Ivoire pour la CAN et l'état des infrastructures sportives? Et quelles seront les retombées positives pour le pays suite à l'organisation de cette coupe?
Bon, l'organisation a été un événement, ça a été réussi puisque la compétition a très bien démarré. Et pour l'instant, les infrastructures, il n'y a rien à reprocher. Les 6 stades apprêtés pour la circonstance sont très bien aux normes internationales, que ça soit le stade Alassane Ouattara de Bimpe, que ça soit le stade Oufouet-Boigny, que ça soit également le stade de Bouaké, que ça soit aussi le stade Amadou Koulibaly et également celui de Son Bedro. Jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler, il n'y a pas encore eu de plainte. Cela voudra dire que ces infrastructures sont aux normes, ces infrastructures sont vraiment aux normes et sont prêtes à accueillir les équipes et leur permettront de sortir le grand jeu, de jouer le football, le beau football et gagner le public sportif africain et celui du monde entier. Parlant de retombées positives par rapport à ces infrastructures, il faut dire que la Côte d'Ivoire est désormais apte et éligible à toutes sortes de compétitions internationales puisqu'elle dispose de 6 stades aux normes internationales. Et ces infrastructures aussi peuvent profiter au football local puisque cela permettra aux joueurs locaux d'avoir la chance de disputer leurs matchs déjà sur de grands terrains de stand-in international.
Quelle est selon vous l'importance de l'Afrique pour le football dans le monde? Et que faut-il faire pour vous pour renforcer l'attractivité du foot africain?
Je pense que ça se sent sur les 20 dernières années. Il y a quand même des joueurs africains qui ont su s'imposer dans les grands championnats, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Bundesliga, que ce soit en Liga, que ce soit en Série A ou encore en Ligue 1. Je pense que les joueurs africains ont eu quand même une histoire. En parlant de ça, nous avons pu citer hein, les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Didier Okocha qui ont eu quand même à s'imposer dans ces grands championnats-là. Aujourd'hui, la génération qui est là, les Sadio Mané, Riyad Mahrez, Mohamed Salah et bien d'autres, les Bertrand Traoré, Hakimi Ashraf, qui sont quand même de très bons joueurs qui évoluent dans ces championnats. Et même si aujourd'hui, il y en a parmi eux qui n'évoluent plus dans ces grands championnats et font aujourd'hui en Arabie Saoudite, on a eu quand même à les voir prester dans ces grands championnats et c'est la preuve que le football africain a quelque chose à vendre dans le monde entier. Quand on prend par exemple Sadio Mané qui a terminé deuxième au Ballon d'Or en 2022 et dernièrement Victor Osimhen qui a fini en 8e position du Ballon d'Or en 2023. Ce sont des éléments qui prouvent vraiment que le football africain a sa place et aussi il y a les clubs qui n'aiment pas vraiment laisser les joueurs africains rejoindre les sélections pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cela prouve qu'ils jouent de très grands rôles dans leur club respectif. L'attractivité du football africain, c'est d'abord au premier plan la formation à la base. Il faut que d'abord le football africain soit compétitif et je pense que la Confédération africaine de football est en train de travailler pour que cela puisse arriver. La formation à la base, la promotion des championnats scolaires pour pouvoir détecter un peu plus tôt les jeunes joueurs, les jeunes talents et les former pour la cause. Ça passe aussi par l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations à Haute-Sainte et également les compétitions interclubs. Et récemment, il y a la African League qui a été quand même initiée pour permettre quand même aux clubs hein, d'avoir de jeux et de se prêter hein, et d'essayer de rivaliser avec les grandes compétitions dans les autres championnats du monde. Voilà, en dehors d'organiser ces genres de compétitions à Haute-Sainte, il faut que la CAF développe aussi des politiques marketing de haut niveau pour que pouvoir attirer de grands sponsors comme le font les grands pays, comme le font les grands championnats du monde.
L'année dernière, l'équipe nationale russe a joué contre le Cameroun et le Kenya. En 2024, il pourrait y avoir des matchs avec d'autres équipes nationales du continent. Comment évaluez-vous l'importance de ces rencontres pour l'Afrique et pour la Russie ?
Il faut déjà souligner que la Russie entretient quand même de très bonnes relations diplomatiques avec les pays africains et ces matchs amicaux ne feront que consolider ces liens-là entre ces pays. Vous savez, le football est de nature réconciliateur, le football est unificateur et s'il y avait déjà des liens serrés, de forts liens entre ces pays, le football viendra, ces matchs amicaux, je veux dire, viendront juste donner un coup de pouce, venir consolider ces relations qui existent entre ces pays. Et nous espérons qu'en 2024, nous aurons quand même beaucoup plus de matchs amicaux entre la Russie et les pays africains.
Malheureusement, les événements internationaux, y compris les Jeux Olympiques, font depuis quelque temps l'objet d'une politisation. Selon vous, les désaccords politiques ont-ils leur place dans le sport ?
Le football n'a pas, ne doit normalement pas se mêler des désaccords politiques. C'est deux choses différentes. Puisque le football en lui-même l'a interdit, je pense que il y a une partie des règlements de la Fédération internationale de football qui interdit l'ingérence politique dans les affaires de football. C'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, et malheureusement, nous constatons, pas seulement en Afrique, mais également dans le monde entier, qu'il y a des décisions politiques qui viennent perturber le monde sportif. En Afrique, on voit des politiques qui ont du plaisir hein, à destituer, sinon à limoger des sélectionneurs à la tête des équipes nationales, ou bien même à se plaisir à dissoudre des équipes nationales. Ce sont des faits anti-footballistiques qui doivent être normalement évités, mais malheureusement, on y fait face. Mais on suppose ou bien on espère que les prochaines fois, les prises de
C'était Hilary Christelle Tolok Padonou, journaliste sportive béninoise pour Spoutnik Afrique. Elle nous a partagé ses premières impressions à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu actuellement en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.